Conversation avec Hanan Haratz. Un rendez-vous hebdomadaire avec des Marocains du monde.
Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle conversation. Aujourd'hui, nous partons en voyage, un voyage original, tout en lenteur, qui prend le temps et qui invite à la réflexion. Ce voyage, Nassira Mouaddem, journaliste franco-marocaine, elle travaille aujourd'hui à Arrêt sur Image, eh bien, elle l'a décidé en mai 2022, quand elle choisit de relier la France et le Maroc, ces deux pays, par train. L'occasion pour elle de revisiter autrement les souvenirs du retour au bled et de nous inviter à une réflexion à la fois intime et politique sur la mobilité, sur l'identité et sur l'écologie. Elle raconte cette très jolie aventure dans un livre sorti en mai dernier chez Gallimard. Et si on rentrait au bled en train, elle est avec nous aujourd'hui pour en parler. Nassira Mouaddem, bonjour.
Bonjour Hélène.
Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de ce très joli livre qui ressemble à un journal de voyage en fait.
Exactement, c'est vraiment ce que je voulais faire et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous ou avec toi parce qu'on se connaît un peu Hélène.
On se connaît depuis un petit moment.
C'était vraiment ça que je voulais faire. C'était vraiment à la fois un récit de voyage, parce que bah, ce voyage, comme tu l'as dit, intime et politique, c'est un voyage que j'ai voulu aussi redécouvrir en train, alors que je l'ai fait pendant des années en voiture, et j'ai voulu retrouver ces sensations-là, et c'est la raison pour laquelle aussi je le fais maintenant de cette manière-là depuis 2022. Mais c'est aussi un guide. Donc c'est un guide récit, un guide parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver toutes les informations pour pouvoir faire ce voyage en train, parce que c'est pas comme quand on prend l'avion pour aller au Maroc ou pour aller en France à partir du Maroc, où on clique et en deux clics, trois clics, terminé, on a un billet. Non, là, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de site internet centralisant toutes les informations. Il faut aller chercher, il faut aller fouiner. Et donc, du coup, je me suis dit que bah, je vais aller faire gagner du temps aux gens qui, peut-être, s'étaient dit un jour, pourquoi pas le faire en train et qui n'ont jamais franchi le cap. Et là, l'idée, c'est de leur dire, voilà, je vous donne tout clé en main. Et puis, en plus de ça, vous avez ce récit nostalgique de nos voyages au bled en voiture. Et je vous le propose. Ouais, c'était vraiment ça.
Absolument. Alors, c'est un livre qui est à la fois journal de voyage. Hein, on va y revenir parce que vous racontez étape par étape ce voyage. C'est aussi une déclaration un peu d'amour au voyage, au Maroc, à ce double lien, à la nécessité que vous avez. On va en parler dans un instant. De revenir au Maroc tous les ans. Et puis, c'est aussi un guide qui est bourré d'infos pratiques. Et d'ailleurs, on te dit un grand merci. Parce que non seulement il y a toutes les informations sur les différents trajets possibles en train, mais aussi beaucoup d'informations sur toutes les villes que vous avez traversées. Barcelone, Cordoue, Cadiz, Tarifa, et ensuite Tanger. Et ensuite, vous finissez Tanger-Casa en train. Alors, tout d'abord, pour qu'on comprenne un peu l'idée du livre, quelques questions introductives. Vos objectifs en écrivant ce livre, il y en a un que vous annoncez très tôt, dès l'introduction. Vous dites que rentrer au bled est devenu un geste politique. Je vous cite, rentrer au bled est devenu un geste politique. Pourquoi est-ce que c'est un acte politique aujourd'hui? Ou est-ce que ça l'a toujours été d'ailleurs?
Parce qu'aujourd'hui, je crois que peut-être encore plus qu'avant. Moi, j'ai 41 ans bientôt, et donc j'ai un peu de recul. Alors, j'ai évidemment pas la perspective historique d'un historien, mais j'ai un peu le recul de ma jeune vie, et je n'ai pas le souvenir d'une criminalisation aussi forte de la question d'immigrés, la question d'immigration en France. Et c'est pour ça que je dis que c'est un geste politique, c'est que aujourd'hui, dire qu'on a une multiplicité d'identités, qu'on se sent à la fois africaine, occidentale, européenne, marocaine, française, musulmane, solognote, parisienne, tout ce que je suis à la fois, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que la France refuse, nous refuse, me refuse ces différentes identités. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours dans les médias. Moi, c'est ma matière première en tant que présentatrice des émissions d'Arrêt sur Image. Mon métier, c'est de décortiquer, de déconstruire le récit médiatique de l'actualité. Et ces sujets-là, c'est des sujets qui sont absolument, qui inondent les médias aujourd'hui en France. Et surtout, cette tonalité-là, qui est une tonalité extrêmement anxiogène, sécuritaire, qui fait peur, qui effraie les gens. Et c'est pour ça que je dis que c'est un geste politique, c'est que je veux vraiment rappeler à la face du monde, ou en tout cas tous ceux qui vont me lire, que personnellement, le fait de rentrer au Maroc, c'est un geste que je veux inscrire dans ce contexte-là, en disant « je suis tout ça à la fois ». Et je suis aussi marocaine, ce lien avec mon pays d'origine, il est vital pour moi, il est essentiel pour la transmission que je veux faire à mes enfants, et que ça va jamais s'arrêter parce qu'en fait, on est des millions à le faire, ce voyage-là, et que il est inscrit dans l'histoire de ce pays, que vous le vouliez ou non. Et le dire, c'est politique. L'affirmer de cette manière-là, c'est politique parce que, quelque part, on nous empêche de tenir ce propos aujourd'hui.
Donc finalement, pardon, quelque part, en assumant dans ce titre, et si on rentrait au bled, qui est une affirmation joyeuse, vous renversez le stigmate, en fait, à tous ceux qui parlent à longueur de temps de renvoyer les immigrés chez eux, ou qui peuvent te dire à toi, et tu le dis souvent dans les interviews, où on sait que tu es très journaliste politique, donc tu as des positions pour lesquels tu te fais critiquer, et souvent c'est des messages que tu reçois de rentre chez toi. Donc quelque part, l'affirmer de façon joyeuse, oui, je rentre au bled et dans la joie, c'est une façon de renverser ce stigmate.
C'est exactement ça, c'est vraiment un retournement de l'injure. C'est un boomerang que je renvoie à la vie, au visage et à la tête des racistes et de toutes celles et ceux qui tiennent ce genre de propos aujourd'hui, qui ne sont d'ailleurs pas uniquement des gens de l'extrême droite, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ces propos-là, cette tonalité-là, elle a contaminé l'ensemble du débat public français. Et donc oui, dire et assumer dans le titre, y compris dans un livre qui est publié par Gallimard, et ça c'est hyper important, l'écrire de cette manière-là en disant non pas « je vais voyager au Maroc » ou « je vais aller au Maroc » ou « je vais me rendre au Maroc », mais dire « je retourne au bled », c'est-à-dire « je fais ce retour-là que vous m'imposez presque à longueur de journée dans vos tweets, etc. et dans vos déclarations médiatiques », en fait, je le mets dans ma bouche, j'utilise le mot « bled » à dessein parce que vous me le renvoyez à la face au quotidien, et donc je le mets dans ma bouche, je l'assume, et j'en fais effectivement quelque chose de joyeux. J'en fais quelque chose qui est en plus assez similaire à ce que moi j'ai vécu quand j'étais gamine. Moi je me souviens parfaitement, alors évidemment avec le temps on a beaucoup de nostalgie, mais quand même, les voyages au bled en voiture que nous faisions avec la famille, et évidemment que c'était galère parce qu'on était 5 à l'arrière, qu'il faisait chaud, qu'il n'y avait pas de climatisation, qu'on n'arrivait pas à dormir tellement il y avait de cadeaux sous les jambes. Mais en même temps, on était tellement excités de faire ces voyages parce que c'était notre moment à nous dans l'année. C'était le moment qui était figé presque dans le calendrier et où on savait qu'on allait faire cette grande épopée en voiture familiale ensemble pendant 3 jours. C'est quand même incroyable. Et moi, je me souviens de l'excitation que j'avais quand j'étais gamine, d'essayer de cacher des bagages en dessous des sièges passager au conducteur parce qu'il n'y a pas de place, qu'il fallait mettre la place pour les cadeaux pour la famille. Bref, tous ces petits détails qui ont forgé notre identité. Et donc, de l'assumer de cette manière dans le titre, c'est effectivement de rappeler que c'est de la joie, ce voyage. Et l'immigration, c'est aussi joyeux. C'est aussi des rassemblements, c'est aussi des fêtes. C'est quelque chose qu'on nous interdit quelque part. Et moi, je veux l'assumer en leur disant, bah, en fait, ça ne va pas s'arrêter parce que c'est nous, que vous le vouliez ou non.
Et pourtant, vous parlez un peu de tristesse de ces voyages, notamment au moment du retour, où vous voyez vos parents et votre maman en particulier émus à l'idée de quitter les siens, et que ça, c'est intimement lié à la situation de l'exilé, de celui qui doit toujours revenir, mais à un moment repartir aussi. Donc, est-ce que c'est aussi pour remplacer un peu cette tristesse que vous emmenez vos enfants comme ça par train et dans la joie, pour leur laisser aussi une transmission, mais une transmission plus joyeuse ?
Non, c'était pas du tout un objectif au moment de l'écriture, ni au moment d'ailleurs de faire le voyage, ni aujourd'hui. En fait, cette histoire-là, c'est une histoire de l'exil, c'est le ghorba, c'est les conséquences de le ghorba, et ça, c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire de l'immigration et on pourra pas l'enlever. Mais c'est pas quelque chose que moi j'ai vécu ou que je pense, enfin comment dire, que j'ai vécu en mon fort intérieur. Moi, je le vivais à travers les yeux de ma mère. Qui effectivement, moi, j'ai vraiment, c'est une image qui me hante un peu. C'est-à-dire ma mère qui claque la porte de la voiture côté passager au moment où on rentre en France et qu'elle quitte sa famille, qu'elle quitte ses parents et ses frères et sœurs, et qu'on l'entend pleurer à chaudes larmes pendant des kilomètres et des kilomètres sur le retour. Ça, c'est vraiment une image qui m'a marquée. Alors nous aussi, évidemment que nos parents nous ont transmis cette cette mélancolie, cette tristesse aussi liée à l'éloignement. Moi, je sais que j'aurais adoré pouvoir, par exemple, connaître mes grands-parents comme mes petits copains français connaissaient leurs grands-parents quand ils allaient leur rendre visite tous les dimanches. C'est une histoire qui nous manque et je pense que c'est quelque chose qui pèse aussi dans la construction que nous avons eue d'adolescents et d'adultes ensuite. Mais aujourd'hui, on a une histoire quand même qui est, en tout cas notre génération, en tout cas moi, je parle pour moi, mais j'ai l'impression quand même que c'est partagé par beaucoup, c'est qu'on a une histoire plus distanciée avec celle-ci, avec le pays d'origine. C'est-à-dire que nous, nos parents vivent en France, que nos frères et sœurs sont en France, qu'on a évidemment encore de la famille au Maroc, et c'est la raison pour laquelle on rentre tous les ans. Mais du coup, on a moins cette urgence de rentrer. Tu vois, on a moins cette j'ai pas d'autre mot que cette urgence, cette nécessité absolue de rentrer le plus vite possible parce que les nôtres nous manquent. Certains nous manquent évidemment et on est heureux de les retrouver, mais du coup, on est moins dans cette tristesse-là aussi parce que on a quand même effectivement une relation plus distancée, avec plus de recul avec cette histoire-là. Le fait de le faire dans la joie avec les enfants de cette manière-là, c'est fort aussi parce que c'est une autre manière de transmettre cette histoire à nos enfants.
Mais justement, vous dites que vos parents sont en France, vos frères et sœurs aussi. Donc, quelque part, contrairement à vos parents dont la famille était restée au Maroc, vous avez la famille là-bas et pourtant, vous avez ce besoin irrépressible de revenir au Maroc chaque année. À quoi ça tient, ce lien si particulier avec le Maroc ? Et le
tu
besoin que vos enfants.
Toi,
non mais parce que c'est un lien qui est particulièrement entretenu par la diaspora marocaine, même si on en est peut-être à la deuxième, troisième génération d'immigrés, et qu'aujourd'hui, toute la famille quasiment est installée là-bas. Mais il y a toujours ce besoin, cette envie de revenir au Maroc.
Parce que c'est là où tout a commencé pour nous en réalité. Même si on est né en France, et moi je me sens toutes les identités que je t'ai citées tout à l'heure, je me sens tout ça à la fois et je me sens 100% tout ça à la fois. Je n'ai pas l'impression d'être un 5% l'un, 10% l'autre. Non, je me sens tout ça à la fois en même temps de manière entière. Mais quand même, nos racines sont au Maroc. Mmh. Et donc, on a envie, je ne sais pas, je crois que c'est quelque chose d'indescriptible. Je n'arrive pas à l'expliquer que par le sentiment de lâcher prise, peut-être. Mm. Tu sais, quand tu arrives dans un endroit où tu te sens bien, parce que c'est chez toi et parce que tu n'arrives pas à l'expliquer que juste c'est chez toi. Et que tu arrives avec ce ferry-là qui t'amène jusqu'à Tanger. Et puis, une fois que tu es à Tanger et que tu es au Maroc, ça fait, tu es arrivé, tu es bien. Il y a un côté aussi un peu aussi, tu sais, de presque de plénitude. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois tout à fait.
Désolée que ce soit pas clair, mais je sais pas si on arrive à être clair avec ça parce que c'est tellement intime, c'est tellement profond, c'est tellement des choses aussi sur lesquelles on n'a pas forcément envie toujours de s'attarder parce que c'est un peu de pudeur aussi, tu vois. Et puis c'est l'histoire de nos parents elle est dure aussi. Même si moi je suis extrêmement redevable envers mes parents parce que grâce à eux on a la vie qu'on a aujourd'hui, alhamdoulilah, mais on sait à quel point ils se sont battus pour faire leur vie et puis pour nous donner tout ce qu'ils nous ont donné. Donc je trouve que c'est toujours des questions qui sont difficiles et je pense que le fait de ne pas réussir à en parler sans verser des larmes, etc., c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de mots qui peuvent exprimer ça, je crois. Il n'y a pas beaucoup de mots qui peuvent exprimer le sentiment de se sentir chez soi, là où on est. Et je le vis aussi d'ailleurs quand je rentre à Romorantin, en Sologne, où je me sens vraiment chez moi, où je sais que j'ai plus besoin d'avoir, tu sais, ce masque de la combattante, de celle qui va devoir se battre contre tous ceux qui veulent pas qu'on fasse de place là où on est à Paris, par exemple, ou dans des milieux élitistes. Tu vois, le truc de « c'est bon, tu peux enlever ce que tu as, t'enlèves ta gilet là-bas, t'enlèves tout, tu vois, t'enlèves ce que tes vêtements, t'es chez toi, en fait. » Et c'est ce sentiment-là qui, je crois, est difficile à exprimer.
On sent beaucoup d'émotions chez toi, Nassira, et je pense que ça dit mieux que les mots, tout ce que représente ce lien avec le Maroc et ce lien aussi avec l'histoire des parents. Et quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la dette envers les parents et quelque part rester fidèle, la fidélité au Maroc, la fidélité à ses racines, la fidélité à la famille des parents, c'est quelque part une façon de régler cette dette avec eux parce que comme tu l'as dit, ils se sont sacrifiés, ils ont offert, tous les parents qui ont fait cette immigration, ils se sont sacrifiés pour leurs enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la dette et qui expliquerait ce besoin de rentrer et de le transmettre à tes enfants?
Non, vraiment pas. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Et puis, tu vois, nous, par exemple, dans la famille, on a tous un lien très différent avec ça. Je pense qu'on a tous ce sentiment de dette et de redevabilité envers les parents. Mais on l'exprime de manière différente. Moi, j'ai des frères et sœurs qui rentrent beaucoup moins au Maroc. Moi, je ressens ce besoin-là parce que je veux aussi que mes enfants savent d'où ils viennent et qu'ils puissent, tu vois, se regarder dans la glace quand ils seront un peu plus grands. Moi, mes enfants, ils ont 12, 9 et 5 ans. Alors, pour celui de 12 ans, il y a beaucoup de questions, tu vois. Nos familles viennent d'où? Celle de papa, celle de maman? Où exactement? Quelle tribu? Enfin, tu vois, ils posent ce genre de questions et on a besoin et on est même dans l'obligation de pouvoir leur répondre. Et le fait de vivre si loin, c'est abstrait pour eux. Donc, ce voyage-là, c'est une manière aussi de concrétiser ces liens identitaires. C'est une manière de les matérialiser, de pouvoir sentir le pays, de pouvoir parler un peu la langue, de pouvoir comprendre l'histoire. Et donc, je crois que le voyage au Bled, le voyage au Maroc, il permet ça. La vie au quotidien, elle est à 10 000 à l'heure. Nos enfants vivent en France, ils sont nés en France, donc ils ont un quotidien qui est français. Et c'est difficile, je trouve, même par intermittence, tout au long de l'année, de pouvoir toucher du doigt cette identité-là. Et quand on y va un mois, et on y va, et on vit le Maroc, quoi.
C'est l'immersion.
Plus que ça, enfin, on est en famille et alors on essaye tant bien que mal de rattraper le temps perdu, mais c'est toujours impossible. Donc on court après un temps qui est irrattrapable. Ça, c'est l'histoire de tous les immigrés. Mais oui, c'est ça et c'est pas la dette en fait. Moi, la dette, je la ressens beaucoup à mes parents par rapport au fait d'avoir un bon parcours professionnel, de pouvoir mettre en pratique les valeurs qu'ils nous ont inculquées dans n'importe quel cursus, enfin dans n'importe quel parcours professionnel qui est le nôtre. Ça c'est une dette morale que je ressens. Mais la question du voyage, la question du retour au Maroc annuel, ça c'est vraiment un besoin que je ressens moi-même.
Alors, l'autre dimension politique de l'ouvrage, c'est aussi la question écologique. Même si vous n'en parlez pas beaucoup, mais vous le soulignez quand même dans votre intention dès l'introduction. Vous parlez de l'acte politique et puis vous parlez du souci écologique avant de parler de l'aspect guide. Et vous dites que le voyage nous engage. Là aussi, je vous cite. Et vous expliquez qu'à 5, avec votre famille, votre mari et vos 3 enfants, ton mari et tes 3 enfants, vous êtes passé en voyageant par train de 30 kilos de CO2 émis vous êtes passé de 708 kilos émis en avion à 30 kilos, pardon, c'est-à-dire 24 fois moins. Donc, c'était aussi une démarche qui expliquait votre envie de prendre le train pour rentrer au Maroc.
Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2022, je ne sais pas si tu te souviens, mais tout le monde a cette idée de retourner au Maroc parce que pendant des mois ou années, les frontières avaient été fermées à cause du Covid.
Oui.
Et donc, on a tous cette même idée au même moment, évidemment. Et là, on hallucine sur les prix des avions qui sont absolument démentiels. Donc, nous, on avait refusé de payer des sommes incroyables pour rentrer. Et là, je me dis, tiens, je vais regarder le train. Et c'est vraiment comme ça que ça commence, en fait. C'est le prix du billet d'avion qui m'incite d'aller regarder le train, ce que ça donne. Je l'avais un peu en tête déjà, parce que moi, je suis une passionnée de train, je prends beaucoup le train, mais je n'avais jamais franchi le cap, en fait. Et c'est assez fou à quel point on est figé dans des manières de voyager, dans des mobilités. Et donc là, enfin, je franchis le cap, je regarde, et là, c'est moins cher que l'avion. Donc, c'est d'abord par le prix, en fait, par le coût du voyage que je rentre dans ce, dans cette manière de voyager. Et puis ensuite, je me renseigne. Et là, effectivement, bah, je me rends compte. Alors, je savais évidemment que l'avion était bien plus émetteur en carbone que le train. Mais là, à ce niveau-là, honnêtement, j'avais pas idée. Et puis, bah, depuis, moi, j'ai abandonné l'avion. C'est-à-dire que je ne prends plus l'avion pour quelques destinations que ce soit. Et je ne voyage absolument que en train ou en voiture. Mais oui, cette dimension écologique, elle est importante. Alors, après, c'est vrai que ça fait pas beaucoup partie du livre parce que malheureusement, bah, tu le sais bien, en tant que journaliste, Hanen, on est contraint à des formats très précis. J'avais écrit plusieurs pages qui malheureusement ont dû sauter à l'édition parce que le livre ne fait que 144 pages. Mais c'était tout un chapitre que j'avais développé autour de la question écologique et la question de l'impact carbone en avion versus le train. Et alors après, moi, j'ai un propos quand même qui est un propos qui nuance la chose, c'est-à-dire que évidemment, dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'on ne voyage plus en avion, ou en tout cas le moins possible, etc. Maintenant, faut pas qu'on se raconte d'histoire. Il y a des gens qui ne peuvent pas voyager autrement qu'en avion. Il y a des personnes qui sont handicapées, il y a des personnes qui ont des problèmes physiques, de déplacement physique, des problèmes, des personnes qui sont malades. Enfin bref, il y a des personnes âgées, tout un tas de publics qui ne peuvent malheureusement pas prendre le train pour ce genre de voyage. Ça, c'est la première chose. Et puis, moi, je fais attention aussi aux discours très essentialisants sur la question écologique, ou en tout cas qui globalise les publics et qui ne prend pas en compte les diasporas. Or, les diasporas, quand elles rentrent au bled, ou quand elles rentrent dans leur pays d'origine, elles ne le font pas pour aller se dorer la pilule au Club Med à Marrakech. Elles le font parce qu'elles ont besoin, parce qu'elles ont elles n'ont pas le choix que de rentrer pour voir leur famille. Et quand je dis la famille, c'est pas les cousins éloignés, c'est les parents, c'est les frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être un droit presque inaliénable. Tu vois, un droit humain inaliénable de pouvoir, une fois dans l'année, retrouver ses parents, retrouver sa famille, pour pouvoir un peu recharger les batteries avant de rentrer dans leur pays d'accueil. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête quand on parle de la question et de la dimension écologique dans les moyens de voyager. Mais je dis aussi que si on peut, franchement, si on a les capacités physiques de le faire, ce voyage en train, il vaut le coup. Il vaut le coup pour la dimension écologique, parce que comme tu le disais, c'est quasiment 30 fois moins d'émissions carbone que l'avion. Le fait de pouvoir voir autant de paysages, de pouvoir voir toutes ces ressources naturelles qu'on ne voit pas en avion. En avion, tout est complètement impersonnel, abstrait, on voit que les nuages, on ne voit pas cette beauté. Et moi, je peux passer des heures et des heures à contempler les paysages. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important, et puis c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre à mes enfants, qui prennent le goût d'apprécier la nature, d'apprécier les paysages, et du coup, par ricochet, d'en prendre soin. Et le train permet de prendre soin des ressources naturelles.
Oui, vous expliquez notamment que ces voyages en train depuis 2022 vous permettent par exemple de voir l'évolution des paysages à cause de la sécheresse, d'observer les fleuves dont le flux baisse d'année en année parce que aussi il y a de la sécheresse, et que du coup ça permet de rendre concrète la prise de conscience écologique. Et il y a des très belles descriptions de paysages d'ailleurs dans votre livre.
Merci beaucoup. Mais c'est vraiment ça, en fait, ce voyage en train, comme c'est un voyage de la lenteur, même si on prend des trains à grande vitesse, parce que pour l'essentiel, c'est quand même des trains à grande vitesse qu'on prend, on peut voir, et on voit, et ça s'impose à nous-mêmes. En 2022, quand on fait pour la première fois le voyage, on est coincé pendant une heure dans le sud de la France, et en fait, on est coincé parce qu'il y a des incendies, des feux de forêt qui sont absolument démentiels, qui ravagent toute une partie du sud-ouest de la France, et au-dessus de nous, on voit les Canadairs tourner pendant des minutes et des minutes pour essayer de tenter d'éteindre les incendies. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué les enfants. Et c'est aussi l'occasion d'en parler, en fait, avec eux, de leur expliquer pour quelles raisons, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de feux de forêt en France, et pourquoi c'est aussi le cas en Espagne, et pourquoi la sécheresse, elle est absolument cataclysmique aussi dans plusieurs régions du Maroc, alors que c'est un pays qui est très agricole, et ça pose de vraies questions sur la question de l'agriculture au Maroc. Donc oui, c'est des, en fait, Quand c'est concret, tout de suite, tu comprends, en fait. C'est plus que des titres de la presse, c'est plus que des articles, c'est ce que tu as vu toi-même, c'est ce que tu as observé, c'est ce que tu observes d'année en année où, effectivement, tu vois, par exemple, le fleuve du Guadalquivir. C'est un fleuve qui traverse la Andalousie et notamment Cordoue, où on adore aller. On voit le débit, on voit le niveau de l'eau du Guadalquivir baisser d'année en année. On voit l'impact dans la faune et la flore aux alentours. Et ça, c'est des choses que les enfants peuvent aussi remarquer tout seuls. Pour ça, je trouve que ce voyage en train, il est aussi formateur et il est aussi pédagogique pour ça.
Alors, revenons au train et vous. Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, c'est une longue histoire d'amour. Et ça commence dès Romorantin, c'est la ville de Sologne où vous avez grandi. Et vous en parlez d'ailleurs, je n'ai pas cité votre premier livre qui s'appelait « Les filles de Romorantin », paru en 2019. Et vous évoquez dans la première partie de votre livre, vous évoquez ce lien avec le train. Donc, vous parlez de Romorantin avec son fameux train, le BA. C'est ça, hein, le blanc-argent, vous allez nous en dire un mot dans un instant, qui était un symbole de liberté pour vous. Et on ne comprend pas bien quand vous dites liberté, parce que le train, c'est tout sauf libre, c'est contraignant, il faut respecter les horaires, on ne peut pas aller où on veut, on est dans des wagons. Donc, mais vous, vous parlez du train comme de liberté, et ça vous suit donc depuis la ville où vous avez grandi en Sologne, jusqu'à vos jeunes années d'étudiante, vous racontez vos voyages entre la Turquie et l'Iran, vous avez pris le transasien, vous parlez du train qui relie la Goulette à la Marsa, je crois, en Tunisie. Vous parlez de l'Europe de l'Est, vous avez fait un voyage de la Bulgarie à la Serbie. Mais qu'est-ce que vous aimez tant dans ces voyages en train et pourquoi pour vous le train c'est la liberté ?
Ça a l'air de te choquer.
Non, pas du tout. Au contraire, ça m'a donné envie de voyager, mais ça m'a intriguée. Ce lien si particulier avec le train.
Je sais, ça surprend beaucoup de gens quand je leur en parle, parce qu'effectivement, tu as raison. Communément, les gens pensent et trouvent que le train est contraignant. Moi, je trouve que le train est une formidable manière d'être libre et d'être indépendant. En fait, quand je parle du train, quand j'étais gamine, c'était effectivement ce petit train qui reliait le blanc à Argent, qui relie aujourd'hui le blanc à Salbris. C'est une cinquantaine de kilomètres. C'est un train très particulier parce que c'est un train à voie métrique, c'est-à-dire à voie unique. Hein, t'as pas deux trains qui se croisent, t'as un seul train. Et si tu veux le train qui doit faire la direction,
un peu comme
opposée,
la navette.
C'est ça, c'est exactement ça. Enfin, t'as tout à fait résumé. C'est une navette, exactement, qui traverse des bois entiers. C'est toute la grande forêt. Parfois, tu vois d'ailleurs tu vois du gibier, des sangliers, des chevreuils, des cerfs, etc. Enfin, moi, c'est mon enfance. Et en fait, c'est un train qu'on prenait pour un peu échapper à la pression des petits villages, tu vois, parce que Romorantin, c'est une toute petite ville. C'était 15 000 habitants quand on était gamin. Et donc, parfois, le mercredi après-midi, on prenait ce train pour aller à Salbris. Donc, c'est encore une toute petite ville, encore plus petite, à une quarantaine de kilomètres. Et on allait se poser et on allait vivre notre petite vie d'adolescente loin des cancans et des potins de Romorantin.
En fait, pour vous, c'était Ibiza, quoi.
Ouais, non, faut pas non plus déconner, c'était pas du tout ça, parce que c'était vraiment la Sologne, donc c'est vraiment, c'est la campagne, et on allait se poser autour de l'étang de Salbris, mais c'était surtout notre moment à nous, quoi, notre moment à nous, loin des regards malveillants ou des regards des petits villages, en fait. Et puis, ça m'a suivi, parce qu'après, pour aller faire mes études, j'ai pris le train, et puis j'ai beaucoup pris le train pour revenir chez mes parents, enfin, je faisais vraiment des voyage très régulier. Et puis en fait, moi, j'ai pas le permis, je ne conduis pas. Toute ma famille, tous mes frères et sœurs ont le permis, parce que quand on vient de la campagne, on n'a pas d'autre choix que de passer le permis pour pouvoir partir. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Après, j'ai compris en faisant un travail sur moi-même pour quelles raisons ça ne m'intéressait pas, et j'en parle dans le livre. Mais du coup, j'ai développé effectivement cette passion du train qui m'a amenée, comme tu l'as dit, jusqu'à Téhéran. Et je crois que c'est peut-être le voyage le plus incroyable que j'ai pu faire. Donc, de Istanbul à Téhéran, c'était un voyage en train de 3 jours. J'étais étudiante à Istanbul à l'époque. Je faisais ma 4e année de sciences politiques là-bas. Et à la fin des examens, je me suis dit, tiens, je vais aller voyager jusqu'en Iran. Et puis, j'ai regardé, ça nous coûtait $50 dans mon souvenir. Et donc, voilà, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie. Et là, j'ai été prise sous les ailes de familles iraniennes qui me regardaient comme ça, éberluée devant une jeune fille. J'avais 21 ans à l'époque, j'étais jeune, toute seule, voyager aussi loin pendant aussi longtemps. On a sympathisé. Je me suis liée d'amitié avec une des une des Iraniennes dans le train, et puis ensuite on a pris le bateau, et en fait on a traversé comme ça des immensités de territoire anatolien, ensuite à traverser le lac de Van en bateau, et puis ensuite à reprendre un train là pour le coup iranien pour aller ensuite jusqu'à Téhéran. Et c'est des souvenirs magnifiques. Et oui, pour moi, c'est pour ça que je dis que pour moi, le train, c'est la liberté. C'est que ça m'a permis d'aller tellement dans tellement d'endroits, de découvrir tellement de cultures, de tellement de territoires que j'aurais, je sais pas, peut-être jamais pu découvrir. Et surtout, de cette manière-là, c'est-à-dire qu'en fait, le train te permet de rentrer en connexion avec des gens, de découvrir des gens. Que tu vois, quand tu prends l'avion, par exemple, que tu es assis à côté de quelqu'un, est-ce que tu as déjà fait connaissance avec quelqu'un dans un avion?
Rarement. Est-ce que ça c'est déjà arrivé, mais pas souvent.
Et ben voilà. Et ben moi, ça me fascine, en fait. Et moi aussi, rarement. Et pourtant, ma personnalité est la même. Pourtant, je suis toujours aussi sociable, n'importe où je suis. Mais en fait, l'avion te fige. L'avion te fige dans une posture. Tu sais, comme si tu étais en apnée, en fait. Et que tu attendais simplement le moment de l'arrivée. Le train, c'est le moment du départ qui est essentiel, en fait. Et c'est le moment des départs qui va déclencher le reste. Et donc, du coup, tu es plus habilité à rentrer en connexion avec des gens. Les gens sont plus habilités aussi à venir discuter avec toi. Il y a beaucoup plus de familiarité. C'est voilà, le fait de pouvoir, tu vois, un peu te déplacer tout le long du train, d'aller au wagon-bar, de lire, etc. En fait,
de dormir, moi, vous train, dormez beaucoup vraiment... dans le train.
Je dors beaucoup dans le train, je travaille aussi beaucoup. Alors tu vois, quand tu fais des trajets de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, ben, en fait, tu as du temps. Et ce temps-là, il est génial parce qu'en fait, tu n'as pas l'impression de courir après quelque chose. En fait, tu te laisses porter. Tu te laisses porter. Et ça, c'est hyper important dans nos vies à 10 000 à l'heure aujourd'hui. Et en fait, moi, le train, c'est vraiment le moyen de transport où je me sens vraiment le plus vivante. Tu vois, j'ai vraiment l'impression de vivre et pas juste d'être là pour attendre d'arriver quelque part.
En tout cas, ce qu'on sent, c'est que vous vous illuminez dès que vous parlez des voyages en train. Et déjà, je commence à être séduite par ce désir de voyage. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que quand tu décides de faire ce voyage en train avec ta famille en 2022, tu postes un message sur Twitter, X aujourd'hui, le réseau social, et tu demandes s'il y a des gens qui l'ont déjà fait et qui auraient des petites astuces pour toi. Et là, tu es extrêmement surprise de voir le nombre de Marocains et de Marocaines qui te répondent en te racontant leurs anecdotes de voyage en train. Et tu découvres que finalement, c'est vrai qu'on parle beaucoup du voyage en voiture. Il y a eu des films, il y a eu des documentaires audio, il y a eu des livres sur ces fameux voyages, pas fameux périples en voiture, mais on connaît très peu les voyages en train, alors que tu as reçu beaucoup de témoignages. Et d'ailleurs, tu en rapportes quelques-uns à la fin du troisième chapitre. C'est le troisième chapitre qui se termine par ces témoignages de personnes qui t'ont répondu. Et tu as été surprise par ça.
Ouais, exactement. Moi, vraiment, j'étais persuadée que nous tous, nous faisions le voyage en voiture. J'étais persuadée que c'était le seul et unique moyen de rejoindre le Maroc pendant des années avant l'avion, évidemment, avant que l'avion se démocratise, avant qu'un certain nombre de personnes continuent à le faire en avion. Et donc, ouais, j'étais très surprise. J'étais très surprise aussi de découvrir que des gens l'ont fait, mais pas qu'une seule fois. Des gens l'ont fait tous les ans ou tous les deux ans pour rentrer au Maroc comme nous, on le faisait en voiture. Et donc, ouais, c'est toute une histoire, en fait, qui m'est apparue. Je crois que effectivement, l'histoire du voyage en voiture a écrasé cette histoire-là, que la culture populaire qui a été du coup, qui en a découlé, tu les as cités, les livres, les documentaires, je pense aussi, tu vois, la chanson de 113, Tonton du Bled. Alors, c'est un retour au Bled en Algérie, mais c'est toujours la même histoire du retour au Bled. Et donc, tout ça a écrasé cette histoire-là. Et donc, j'étais émue, franchement. D'abord de les écouter, parce que du coup je les ai écoutés, ou de les lire quand ils correspondaient avec moi par voix écrite. J'étais émue d'avoir les détails de ces voyages-là. J'étais émue de voir que voilà, ils faisaient connaissance avec plein de gens, des Espagnols, des Portugais, des gens qui rentraient dans leur bled à eux, des immigrés installés en France et qui rentraient en Espagne et en Portugal. Voilà, ça m'a beaucoup émue. Et puis je me suis dit, tiens, en fait, il faut la raconter, cette histoire. En tout cas, moi, j'avais vraiment envie de publier ces témoignages pour tout simplement aussi quand même ne pas oublier que en réalité l'histoire se répète. Je veux dire, c'est un éternel recommencement. nos parents ont, enfin nous en tout cas, on n'a rien inventé. C'est-à-dire que nos parents déjà faisaient ce voyage-là pour plein d'autres raisons. Alors évidemment, c'était plutôt des raisons économiques, parce que soit c'était moins cher, ou soit parce que les familles n'avaient pas la voiture ou n'avaient pas le permis, et donc ne pouvaient pas faire ce voyage en voiture. Et ne pouvait pas non plus faire ce voyage en avion, hein, ensuite quand c'était plus cher. Et donc, oui, l'idée, c'était de rappeler que bah, cette histoire-là, elle existait déjà et qu'on n'a absolument rien inventé.
Et puis, tu découvres que même dans ta famille, des gens ont fait ce voyage en train. Et ça, tu ne le savais pas.
Alors là, ça a été la grande surprise. D'abord, j'ai découvert que mon oncle, par exemple, faisait le voyage, mon oncle maternel au Maroc, à Casablanca, faisait ce voyage quand il était bien plus jeune, dans les années 80, pour aller en France et travailler les étés pour faire les saisons. Ça, c'était avant, évidemment, l'établissement de la zone Schengen où les visas se sont imposés aux Marocains. Avant, les visas n'étaient pas, il n'y avait pas de visa. Et donc, bah, les Marocains pouvaient un peu voyager comme ils voulaient, en tout cas ceux qui avaient de l'argent, évidemment. Mais moi, mon oncle n'avait pas un sou. Et en fait, il prenait le train avec le pass Interrail, puisque j'ai découvert que le Maroc faisait partie du système Interrail. Et donc, il allait en France pour pas cher, il travaillait dans les vendanges, dans les restaurants, il se faisait un petit peu d'argent, et puis il revenait ensuite au Maroc. Et puis ensuite, effectivement, moi, j'ai appris qu'un certain nombre de personnes de ma famille ont fait le voyage en train, mais je n'en dirai pas plus, il faut lire le livre pour découvrir.
Oui, il faut laisser un peu le suspense. Alors, j'ai mon collègue Sohib qui est avec moi dans le studio, puisqu'il y a aussi l'armée de l'ombre hein, dans ce podcast, et qui est en train de me dire que lui a fait ce voyage effectivement en 1989 pour se rendre en France et qu'à l'époque, ça coûtait 2000 dirhams. Donc, tu as encore un témoignage, si besoin.
C'est drôle. Et alors, il y allait pour le tourisme ou pour travailler ?
Pour étudier. Voilà.
Pour étudier, incroyable.
Donc, jusqu'en 1989, donc encore des gens qui faisaient ce voyage. Alors, même si le voyage en train est très différent, et tu vas nous dire dans un instant comment tu l'as préparé, parce que tu l'as dit, il y a plein de chemins possibles. Toi, tu as choisi de faire Barcelone et ensuite d'aller vers Cordoue, l'Andalousie, puis d'arriver à Tarifa. Même si le voyage est très différent, tu prends le soin de reproduire des choses de ton voyage en voiture avec tes parents. Il y a des choses qui sont presque très charnelles. Tu parles souvent de la Madeleine de Proust à un moment. Tu parles par exemple de la nourriture que tu prépares pour tes enfants pour l'emmener en train. C'est la même que celle que préparait ta maman. Il y a le fameux poulet froid, la salade de pommes de terre, les poivrons rôtis et les poivrons grillés. Et j'ai oublié, les œufs durs au cumin, voilà.
Ah bah oui, tu ne peux pas oublier ça, Hanan, c'est pas possible.
Je ne peux pas oublier les œufs au cumin. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre, voilà, de cette nostalgie et du désir aussi de transmettre à tes enfants à travers des choses qui sont très sensorielles, c'est le goût, c'est... et tu les prépares avec eux. Ah oui, et puis il y a le sandwich au thon à la tomate. C'est ça aussi, il ne faut pas l'oublier.
Forcément, c'est un grand classique.
Ça, c'est la panoplie, et tu prends le soin de préparer ça avec tes enfants avant de partir, en y ajoutant la tarte aux pommes et à la cannelle.
Là, c'est vraiment mon obsession à moi de vouloir reproduire ça parce que c'est évidemment beaucoup de nostalgie pour moi, mais je pense pour beaucoup de personnes. Et donc, je me suis dit que une des meilleures manières de transmettre cette histoire, ça passait par la nourriture. Et mais c'est vieux comme le monde, hein, tout ça. Donc oui, je refais ces petits plats qui sont en plus des plats faciles à faire, mais qui sont tellement, tellement emblématiques de cette période de l'année. Donc moi, tu vois, l'été, c'est vraiment synonyme de ça, quoi. Et donc je pouvais pas imaginer de faire ce voyage-là de cette manière en train, sans revisiter, en tout cas sans refaire les petits plats qu'on faisait avec maman. Donc bon, évidemment, c'est beaucoup moins bon que ce que ma mère faisait, hein, y a pas de doute là-dessus. mais oui, c'est une chouette transmission par le culinaire, c'est hyper important.
Et est-ce qu'il y a quand même des choses que vous retrouvez aussi, alors dans le fameux voyage en voiture? Vous avez parlé tout à l'heure de la promiscuité avec les enfants, la voiture qui devient une deuxième maison. Mais il y avait aussi les choses très amusantes, comme les parents qui t'envoient acheter l'eau ou le sac de glace parce que tu as appris l'espagnol au collège. Il y a le fait de scruter les panneaux routiers de peur de perdre un embranchement ou de rater une sortie. Et puis, il y a le fameux taureau où les enfants se battaient pour savoir qui allait repérer le premier taureau. Est-ce que quand on voyage en train, on voit tout ça aussi?
Ou est-ce que le taureau, oui. Le taureau, oui, ça a été ma grande surprise. J'étais super émue, en fait, de voir que même à travers les vitres du train, on voyait le taureau. Et du coup, ça a été l'objet d'une petite taquinerie de la part de mes enfants, tu vois, parce que quand je leur ai raconté ça, ils m'ont dit ouais, franchement, un taureau, c'est bon, y a rien d'extraordinaire, tu vois. Ils ont fait les blasés. Et puis après, quand on a retrouvé le taureau sur la route, ils étaient contents et ils ont fait exactement ce que nous on faisait quand on était gamin, c'est-à-dire ah maman, on a vu le taureau, voilà. Et donc j'étais plus si gênante que ça. Mais ouais, ça, le taureau, franchement, c'est quelque chose, hein, parce que ça a vraiment été un repère sur la route du bled. Et donc, de le revoir ça, comme ça, vraiment de manière surprenante, parce que je ne savais pas. Je n'avais pas du tout lu, je ne savais pas qu'on le voyait à travers le train. Et donc, quand j'étais assise dans le train et que je le vois, j'étais mais comme une gosse, quoi. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Après, il y a une vraie différence quand même avec... Enfin, il y a deux différences quand même avec la voiture. Et honnêtement, pas des moindres, et je suis bien contente que celle-ci, elle n'existe plus. C'est la question de la sécurité. Et c'est la question aussi du confort. La sécurité, parce que c'était dangereux, hein, de voyager jusqu'au Maroc en voiture. Alors nous, alhamdoulilah, on n'a pas eu d'accident. On a eu un petit problème à un moment, la voiture est tombée en panne, mais bon, ça s'est réglé et rien de grave, alhamdoulilah. Mais moi, je me souviens, j'étais gamine, on voyait des voitures renversées le long de la route, et on savait que c'était des personnes, des familles immigrées comme nous, parce qu'on voyait le porte-bagages, etc. Enfin, c'était très clair. Et ça, c'était flippant. Et moi, je me souviens aussi de l'inquiétude de nos parents, tu vois, de l'angoisse de nos parents dans la voiture. Tu vois, déjà, tu démarres le voyage avec Surat Safar pendant des heures et des heures. Tes parents qui récitent le Coran. Et puis voilà, donc tu sens l'angoisse du voyage. L'inquiétude aussi parce que, en fait, tu n'es pas à l'abri de faire une mauvaise rencontre. Donc, moi, j'ai le souvenir de mon père qui avait une batte bleue dans côté passager, comme s'il allait se battre avec quelqu'un, s'il allait se passer quelque chose. Donc ça, c'est la question de la sécurité. En train, évidemment que, voilà, on n'est pas à l'abri de problèmes en train, mais quand même bien moins qu'en voiture. Et puis, la question du confort. Je veux dire, moi, je suis bien contente de pouvoir dormir aujourd'hui dans le train. Je suis bien contente de pouvoir trouver un repose-tête, de pas, tu vois, d'être dans un air climatisé, de pouvoir souffler, respirer. Et ça, franchement, il n'y a pas photo, c'est quand même beaucoup mieux, quoi.
Et puis, l'avantage aussi du train, et ça, vous en parlez aussi longuement, c'est que les voyages qui se faisaient en voiture avec les parents, l'objectif, c'était d'arriver et d'arriver le plus rapidement possible pour ne pas rater une journée avec ses proches. Et du coup, on ne visitait rien de l'Espagne ou des petits villages en France, alors que là, vous prenez le temps à chaque escale. Vous vous arrêtez à Cordoue. Vous arrêtez d'abord à Barcelone, ensuite à Cordoue, ensuite à Cadiz, ensuite à Tarifa. Et puis, c'est là où vous donnez plein de conseils sur où prendre un bon petit déjeuner, ou aller voir un spectacle de flamenco. Vous faites un historique de tous les monuments à voir. Vous racontez l'émotion qui vous prend en entrant dans certains endroits, notamment à Cordoue. Et donc ça, pour vous, c'est important. Et est-ce que aussi, le fait que ça se passe en Andalousie, que ce soit un endroit qui ait été un mélange de cultures, vous parlez des mosquées cathédrales, de cet art andalou qu'on retrouve de part et d'autre de la Méditerranée, en tout cas du détroit de Gibraltar. Et est-ce que ça aussi, pour vous, c'est important de montrer à vos enfants que un pied en Europe, un pied en Afrique et au Maghreb, il y a eu ces mélanges culturels, il y a eu ces échanges culturels et il y a cette proximité finalement là où, dans le pays où ils grandissent aujourd'hui, c'est ce que tu disais en introduction, on a plus le goût aujourd'hui de diviser.
Exactement, non, mais c'est vraiment ça. Alors, c'est vrai que c'est une petite revanche sur la vie quand même, parce que, bon, ça, on a tous connu ça. Hein. Moi, je sais que tous mes copains d'origine immigrée, d'ailleurs, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des Marocains, des Algériens, des Portugais, des Espagnols, tous te disent qu'en fait, toi, tu demandais à t'arrêter, à aller visiter. Tu voyais les panneaux Madrid, Barcelone, t'avais qu'une envie, c'était pouvoir aller rentrer dans les centres-villes, les visiter, et que les parents te disaient, mais non, on n'a pas le temps, on trace. Donc, et évidemment qu'on le comprend aujourd'hui avec le recul. Mais oui, c'est quand même un bonheur de se dire qu'on a la possibilité de s'arrêter, de pas courir après le temps, tu vois, de prendre le temps de visiter, de se faire plaisir aussi un peu quelque part, tu vois. Alors nous, on fait le choix d'un voyage qui dure 3 jours, 3 jours et demi. Mais on pourrait le faire beaucoup plus rapidement, hein. Je pense que le plus court, le plus bref, c'est 1 jour et demi pour aller jusqu'au Maroc. Mais nous, vraiment, c'est important pour nous de se dire que on profite de notre passage pour pouvoir visiter tout ce qu'on n'a pas pu visiter. Et la particularité de l'Espagne, c'est que c'est un grand pays, avec une diversité de territoires, d'architecture, de patrimoine. Enfin, c'est absolument gigantesque ce qu'il y a à visiter. Je pense qu'on n'aurait pas assez d'une vie pour visiter toute l'Espagne. Et donc, oui, c'est sûr que le fait de pouvoir passer par l'Andalousie, et nous, on adore, et de prendre le temps de faire connaissance avec cette histoire qui est une histoire de richesse, en fait. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que il fut un temps où la civilisation musulmane était pas que conquérante, était valorisée. C'était une civilisation qui traduisait des textes, qui a permis à un certain nombre de savants de pouvoir et de connaissances de pouvoir être diffusées sur l'ensemble de la planète. Enfin, c'est pas rien quand même en termes d'impact sur l'histoire mondiale. Et évidemment, aujourd'hui, l'image de l'islam et l'image des musulmans est bien trop écornée en Europe et ailleurs. Et donc, ouais, c'est un plaisir de permettre aux enfants de pouvoir se plonger dans cette histoire-là. Et Cordoue, par exemple, moi, je suis fascinée par cette ville, par l'histoire, par tous les monuments qu'on peut visiter. Tu as cité évidemment la mosquée cathédrale. Franchement, je nous oblige à y aller à chaque fois tous les ans. Donc, si c'est pas à l'aller, c'est au retour. Mais on va passer à la mosquée cathédrale. C'est une obligation aujourd'hui parce que le sentiment que te procure la visite de ce monument, c'est indicible en fait. C'est tellement puissant. La force qui se dégage de ce mélange. Alors, beaucoup disent que c'est pas réussi. Moi, j'adore. Moi, ça me fascine. J'adore aller dans les églises aussi. Je rentre beaucoup dans les églises parce que c'est quelque chose qui me prend, en fait. C'est très différent de nos mosquées, mais il y a quelque chose de c'est pas quelque chose qui t'assomme, mais c'est quelque chose qui te
submerge.
Ouais, c'est ça. C'est et voilà. Moi, ça me fascine beaucoup. Et donc la mosquée cathédrale, moi, je trouve ça bien réussi. En fait, c'est pas tellement un mélange. En réalité, c'est quand même beaucoup de juxtaposition. Mm-hmm. Je trouve que le côté mosquée musulman est resté quand même intact. On a juste rajouté des choses au fur et à mesure de la progression historique. Et je trouve ça plutôt bien fait. Et alors après, quand tu vas pouvoir visiter le quartier juif. Et la synagogue. La synagogue n'est pas très grande à Cordoue, mais qu'est-ce qu'elle est intacte, qu'est-ce qu'elle est belle. Et tu peux tout à fait imaginer les rites et tu peux tout à fait imaginer ces gens qui pouvaient venir à la synagogue et pratiquer leur religion. Et ça, c'est pour moi en tout cas, et pour nous, c'est très important que nos enfants puissent découvrir tout ça en même temps. Donc ouais, c'est un bonheur de pouvoir transmettre de cette manière-là.
Alors, en tout cas, toutes les informations pratiques sont dans ton livre. C'est le chapitre 4. Là, il y a vraiment toutes les informations ville par ville. Et puis, le dernier chapitre, c'est les conseils pratiques pour voyager en train parce qu'il y a plusieurs itinéraires possibles, plusieurs formules possibles. Alors, la question que j'ai envie de vous demander maintenant avant de conclure, combien de temps ça vous a pris pour préparer ce voyage? Et est-ce que depuis 2022, vous prenez toujours ce même itinéraire en passant donc par Barcelone et l'Andalousie? Ou est-ce que vous avez exploré d'autres itinéraires parmi ceux d'ailleurs que vous partagez avec nous à la fin?
C'est difficile de dire combien de temps ça me prend parce qu'en fait, moi, je commence assez tôt de regarder un petit peu, tu vois, d'imaginer quel itinéraire on va prendre. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que si on dort dans telle ou telle ville, ça sera pas trop cher? Parce qu'évidemment, tout ça, ça pèse. Enfin, ça pèse. En tout cas, ça fait partie de l'équation, le coût final. Donc oui, à partir de mars, je commence à regarder et puis vraiment tranquillement, je compose le voyage. Parce que c'est vraiment un voyage qui se compose, qui se construit en fait. Mais c'est ça que j'aime bien parce qu'en fait, j'ai l'impression de commencer déjà à voyager en préparant le voyage. Donc même si ça me prend un peu de temps, je suis déjà en voyage, je suis déjà partie, je m'imagine déjà, etc. Donc moi, c'est une manière de m'évader. Donc je pourrais pas répondre à ta question et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu faire le guide récit parce que je sais que ça prend du temps et que je voulais faire aussi gagner du temps aux gens. Et tu vois, de pas aller... parce que vraiment, encore une fois, c'est chronophage et ça. Et au-delà du fait que c'est chronophage, c'est compliqué de s'y retrouver parce qu'il y a la France, il y a l'Espagne et il y a le Maroc. Et par ailleurs, en Espagne, par exemple, la privatisation est beaucoup plus poussée qu'en France. Donc, il y a plusieurs compagnies privées, donc il y a plusieurs voyages possibles, plusieurs correspondances possibles, etc. Donc, ça ajoute à la difficulté. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est génial de pouvoir le proposer aux gens et j'espère que je pourrai faire aussi des mises à jour avec les nouveaux itinéraires parce que oui, il y en a eu d'autres. Alors, je cite cet itinéraire-là que tu as mentionné, Hanen, c'est-à-dire Paris, Barcelone, Cordoue, Cadiz, Tarifa, Tanger, Casablanca, évidemment avec le ferry et le bateau qu'on prend. Mais j'en cite aussi d'autres. En tout cas, je cite d'autres villes qu'on avait traversées. On a traversé Séville, visité même. Séville, Granada, Grenade, Madrid. Et donc oui, on a exploré d'autres étapes. Et là, par exemple, cette année, on va faire différemment à l'aller, en tout cas, plutôt que de prendre le TGV pour aller jusqu'à Barcelone depuis Paris. On va prendre un train de nuit qui va nous amener juste après la frontière pyrénéenne en Espagne dans une petite ville qui s'appelle la Tour de Carole. Il paraît que la dernière heure de train est magnifique avec vue sur les Pyrénées. Puis ensuite, on prend un petit train régional qui va nous amener à Barcelone. On va dormir, on va visiter parce que Barcelone, c'est grand et encore une fois aussi, on n'a pas assez d'une vie pour tout visiter. Et puis plutôt que de passer par l'Andalousie vraiment à l'intérieur des terres ou à l'Andalousie de l'Ouest, on va passer à l'Est, on va rejoindre Malaga et on va... alors. On va pas longer totalement le littoral, mais presque. Il paraît que la ligne ferroviaire est magnifique et ça va nous amener donc à Malaga. Malaga, on va visiter, puis après, on va rejoindre ensuite Tarifa. Donc, c'est ça qui est génial avec le train, c'est qu'en fait, tu peux multiplier les itinéraires, tu peux multiplier les tronçons. Et surtout, et nous, ce qui nous avait vraiment surpris, et ce qui nous a beaucoup surpris, notamment sur les tronçons, comme par exemple Barcelone-Cordoue, c'est à quel point, même en ayant fait plusieurs fois ce trajet, à chaque fois, tu vois des choses différentes. Parce qu'en fait, tu n'es jamais assis au même endroit dans le train. Ton point de vue n'est pas le même. La lumière n'est pas la même parce que tu voyages jamais au même moment. Et donc, en fait, ton expérience de voyage change et ta contemplation aussi des paysages change. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le train. Et dernière chose, je donne aussi plusieurs endroits d'où partir en France. Nous, on part de Paris, mais évidemment, la France, c'est grand, on peut partir de plein d'autres villes. Et je donne aussi tous les bons plans, tous les conseils pour partir de grandes villes de France.
Absolument, c'est très complet. Mais juste une question avant de conclure, j'y pense là, parce que je pense aux mamans, comme toi. Voyager avec des enfants, c'est pas très compliqué, parce qu'on peut se dire, dans la voiture, on met les bagages, on met les enfants, tout est rassemblé au même endroit, on bouge plus jusqu'à l'arrivée. Pareil pour l'avion. Voyager en train, est-ce que c'est compliqué avec des enfants?
Bah non. Non, mais parce que je pense vraiment qu'on se met des frontières dans la tête, en fait. Je pense vraiment qu'on se met des barrières mentales pour se convaincre que les autres manières de voyager sont plus faciles. Mais honnêtement, nous, on voyage léger. Mais parce que le voyage en train t'impose ça. Mais franchement, c'est pas plus mal. Parce que moi, j'ai le souvenir de plein de fois où j'ai été au Maroc en avion, où j'avais une valise remplie à ras-bord, et où en fait, tu ne mets qu'un quart des fringues que tu amènes avec toi. Là, tu prends l'essentiel. Nous, on s'oblige à prendre 4 tenues maximum par personne. Donc voilà. Et puis de toute façon, au Maroc, on s'habille toujours pareil. il fait chaud, les affaires elles sèchent très facilement. Si tu veux aller dans une soirée, tu loues une kaftan et puis c'est très bien. Enfin voilà, tu voyages léger et moi je trouve ça bien parce qu'en fait ça te permet de te libérer en fait de choses superflues. Et puis après pour les enfants, franchement, nous le plus petit quand on a commencé les voyages en train, il avait 3 ans. donc ils étaient vraiment petits. Et en fait, on les occupe, quoi. Alors évidemment, ça s'organise, mais ça s'organise aussi pour d'autres voyages. Donc, il y a des coloriages à prendre, les voitures, les petits trains, les grands, la tablette, des livres. Enfin, ouais. Et puis aussi leur apprendre aussi à contempler, en fait. Leur apprendre à profiter des paysages. Parce que, encore une fois, c'est des paysages qui peut-être ne resteront pas. Et donc, leur apprendre à apprécier le moment, aussi à se dire comment on fait pour les préserver, comment en tout cas on peut essayer, nous, à notre échelle, chacun entre nous, à essayer de protéger tout ça. Et alors oui, ça prend du temps, mais éduquer des enfants, ça prend du temps de toute façon, c'est clair.
Merci d'avoir partagé cette vision et cet aspect un peu pédagogique de ce voyage en train au-delà de la dimension politique écologique qu'on avait évoquée. Alors, pour conclure, une dernière question, Nassira. Il y a un point commun, que l'on vienne en voiture ou que l'on vienne en train, à un moment, on prend le bateau pour débarquer à Tanger. Vous évoquez ce que fait en fait l'arrivée à Tanger quand on voit se dessiner à l'horizon les premières maisons blanches et que la porte du bateau s'ouvre et qu'on prend cette première bouffée d'air du Maroc. Quel souvenir vous gardez de ça quand vous étiez enfant et comment vous le vivez vous aujourd'hui avec à votre tour avec vos propres enfants, cette arrivée du bateau à Tanger?
Moi, ce dont je me souviens, c'est lorsqu'on était sur le pont, qu'on avait tous la tête dirigée vers le même endroit, c'est-à-dire direction le Maroc, direction les côtes marocaines, et qu'on attendait tous de pouvoir voir se dessiner ces fameuses côtes, et le silence, en fait. C'est quelque chose qui me frappait beaucoup, moi, avec le recul, j'y pense beaucoup. Il y a un silence, tu sais, de l'attente, et puis peut-être aussi, je pense, de l'imagination de ce qui va se passer après, tu vois. Comment on va retrouver nos parents, nos familles, quelles vont être les retrouvailles, tout simplement. Donc, ouais, ça m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, la chance qu'on a en voyageant en train, c'est qu'en fait, quand on arrive dans le bateau avec nos bagages, nous, on rentre dans le bateau et les voitures sont encore en train d'essayer de rentrer dans le garage du ferry. Donc on est un peu chanceux parce qu'on arrive bien avant tout le monde sur le pont et qu'on a les meilleures places, et ça c'est génial. Ça c'est vraiment le petit kiff, et de le vivre avec les enfants, c'est génial. Et le conseil que je donne aux gens, si vraiment certains veulent faire le voyage en train, mais même ceux qui voyagent en voiture, faites la traversée du ferry de Tarifa à Tanger au lever du soleil. C'est extraordinaire. Vraiment, j'ai pas d'autre mot que extraordinaire. C'est incroyable la lumière qu'on voit. C'est incroyable de voir vraiment pendant toute cette heure de traversée le soleil se lever très progressivement. C'est magnifique. Donc vraiment, c'est un conseil que je donne à tout le monde.
Merci beaucoup, Nassira Mohadem, pour tout ce témoignage et cette très jolie... c'est presque un plaidoyer pour le voyage en train. Et on comprend tout à fait pourquoi vous aimez faire ça. Alors, je rappelle le titre de votre livre. Et si on rentrait au bled en train, c'est paru chez Gallimard en mai dernier. Et je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un prochain bon voyage.
Ouais, absolument. Bisous, Inch'Allah.
Inch'Allah. L'Égypte comme à la khair.
Amine.
Et bel été, et on espère peut-être se croiser ici. À très bientôt, Nassira. Merci encore.
À bientôt. Merci à vous.